Bonjour chers auditeurs, les propédeutes sont heureux de vous retrouver pour votre émission Grand Large sur Fadjet. Aujourd'hui, c'est moi, Nivan, qui vais piloter l'émission, aidé de mes 5 stewards. Et oui, sur Air Propé, vous n'avez pas un steward, mais 5 pour assurer votre sécurité et votre confort à bord. Attachez vos ceintures, nous allons décoller. En effet, notre thème aujourd'hui, c'est le voyage. Traditionnellement, voyager implique un déplacement géographique.
Et nous, à la Propé, est-ce qu'on voyage, Nivan ?
Oui, Laurent, à la Propé, on voyage aussi. Il est vrai, on découvre lors de nos week-ends 5-5 différents lieux de Lorraine et d'Alsace. Benoît nous a fait découvrir sa Meuse, la Meuse agricole, et nous avons eu aussi l'occasion de nous rendre à Strasbourg dernièrement. Mais la Propé, c'est aussi un voyage intérieur. À travers la vie commune, on découvre l'autre et soi-même. À travers les différents portraits que nous allons vous présenter, vous verrez, chers auditeurs, qu'on peut voyager pas cher et sans prendre l'avion. Alors, notre premier propé au micro, c'est Laurent. Dis-moi, Laurent, selon toi, qu'est-ce qui nous pousse à voyager ?
Oui, Nivan, alors la première raison qui peut venir à l'esprit, c'est le tourisme. Alors, on a tous voyagé à l'étranger, mais il peut y avoir différentes formes de tourisme. Certains partent pour l'exotisme, à la recherche d'un peu un peu plus de chaleur ou alors de beaux paysages. Il y a aussi un autre type de tourisme qui consiste à découvrir une autre culture, une autre langue, etc. Et cette découverte permet aussi d'ailleurs de mieux se comprendre soi-même.
Donc, tu nous dis qu'à travers les voyages, on acquiert une meilleure compréhension de soi. De ton voyage en Chine, Laurent, qu'est-ce que tu as découvert sur toi ?
Oui, alors effectivement, j'étais parti 2 semaines en Chine il n'y a pas très longtemps. Donc j'étais plongé dans un univers culturel totalement différent. Alors, je vais te citer une chose. J'ai trouvé très intéressant la visite des sites religieux en Chine. Alors là-bas, il y a 3 principales religions, ou plutôt sagesse. Le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, je les ai un petit peu plus découvertes, sans préjugés, mais en ayant tout de même un regard chrétien, si je puis dire. Et pour moi, cela a révélé quelque part, encore plus, la pertinence de la religion chrétienne, quelque part, la force et la beauté de l'évangile du Christ pour tous les hommes.
D'accord, donc actuellement on assiste à une mondialisation du trafic aérien avec des personnes qui sont de plus en plus mobiles. Pour toi, est-ce que cela pose problème ?
Je dirais que c'est plus un défi qu'un problème. Comme tu le dis, du fait de la mondialisation, les cultures sont de plus en plus en contact. Et donc cela nécessite un réel dialogue entre les cultures pour promouvoir la paix. Et aussi pour qu'il y ait une sorte d'enrichissement mutuel. Alors en 2010, par exemple, c'était l'année internationale du rapprochement des cultures par l'UNESCO. Et donc à travers le monde, il y a eu comme ça différentes initiatives qui ont été prises dans beaucoup de pays. Alors cette rencontre entre les cultures se fait entre pays étrangers, mais ça peut se faire aussi à l'intérieur même d'un pays.
Donc on l'a vu avec Laurent 1, pour voyager très loin, prenez l'avion, c'est la meilleure solution. Mais pour toi, Laurent numéro 2, faut-il faire des kilomètres pour voyager ?
Non. Moi, j'ai voyagé au Maroc, sans aller au Maroc, sans faire tous les kilomètres. En 1990, j'habitais avec ma famille dans le quartier de Plantières, à Metz, un quartier aisé. Et le week-end, j'allais voir mes amis qui habitaient dans le quartier de Borny, à Metz, un quartier défavorisé. Mes amis étaient français d'origine marocaine, et donc j'ai pu goûter aux plats délicieux du Maroc, comme le tagine, le couscous marocain, les biscuits succulents au miel et au sésame, et n'oublions pas le fameux thé à la menthe. J'ai aussi écouté des conversations en arabe, sans rien comprendre. J'étais dépaysé. J'entendais des sons surprenants, des intonations étranges.
Tu peux nous dire quelques mots en arabe, Laurent ?
Oui, alors je peux essayer de compter. Wahed, Tjus, Tleita, Hamsa, Misa, Stas, Ba, Ashratzut.
D'accord. Donc, merci Laurent pour ces petits mots en arabe. En conclusion, qu'est-ce que ce contact avec tes amis marocains t'a apporté?
Alors, je dirais que mes amis marocains m'ont permis de découvrir la culture marocaine et la culture nord-africaine, et surtout de les aimer. J'ai pris conscience que la civilisation arabe avait apporté beaucoup de connaissances au monde entier. La science, l'architecture et la médecine ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui sans les Arabes. Je vous invite à admirer les décorations des mosquées d'Afrique du Nord et d'Arabie. C'est magnifique.
Merci Laurent. Après ce petit voyage au Maroc, je vous propose de faire une escale technique en Chine avec notre spécialiste Laurent Hain. Laurent, tu nous avais parlé du rapprochement des cultures. Connais-tu un personnage qui a vécu ce rapprochement des cultures?
Oui, alors il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Matteo Ricci. Alors peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. C'est un missionnaire jésuite italien du XVIe siècle. Alors, il est très connu en Chine puisqu'il figure sur le monument du millénaire à Pékin. C'est un monument où se trouvent les hommes qui ont été les plus remarquables dans l'histoire de Chine, et il n'y a que deux étrangers, donc Matteo Ricci et puis Marco Polo, qui lui est très connu. Donc il est parti en Chine pour évangéliser, pour transmettre le message de l'évangile, et je trouve qu'il avait une méthode vraiment très intéressante, c'est-à-dire que d'abord il s'est profondément inculturé à ce pays. Il a appris la langue, il parlait parfaitement le chinois, il lisait des livres en chinois, il s'habillait comme un chinois, etc. Ensuite, il avait une démarche très positive, c'est-à-dire qu'il recherchait des points communs, des sortes de ponts, de passerelles entre les différentes cultures, entre la culture européenne et puis la culture chinoise. Il a par exemple écrit un ouvrage sur l'amitié entre les peuples qui a été traduit en chinois, qui est lu là-bas aussi d'ailleurs. Et enfin, une fois que ces ponts et ces passerelles sont trouvés, il annonçait l'évangile en présentant le Christ comme un accomplissement pour tous les hommes.
Donc Laurent, tu viens nous parler d'un missionnaire parti en Chine. Et justement, parmi les propédeutes, nous avons la chance d'accueillir Vianney, qui lui chemine pour les missions étrangères de Paris. Il rêve justement d'aller annoncer le Christ en Asie. Je vous propose d'écouter son interview juste après une pause musicale.
Love it after the end.
Donc, vous venez d'écouter une musique malgache. Après cette petite pause musicale, je vous propose de retrouver l'interview de Vianney. Pourquoi es-tu parti en mission humanitaire ?
La mission humanitaire, c'était pour plusieurs points qui me tenaient à cœur. Déjà, j'avais cette envie de découvrir la vie en dehors de notre cocon européen, de vivre la vie avec un grand V, de savoir ce que les gens pouvaient vivre en dehors de l'Europe, de notre société développée et très confortable, notre société de consommation. Et ensuite, j'avais cette envie de partir à l'aventure dans un pays que je ne connais pas, avec une culture différente, pour découvrir et avoir une expérience forte.
Alors Vianney, je sais que tu es en propédeutique pour les MEP. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Quelles sont tes motivations ?
Alors cette année, j'ai décidé de faire une année de discernement, une année de propédeutique au sein des missions étrangères de Paris. Les missions étrangères de Paris, c'est l'organisme qui m'avait envoyé au Vietnam pour faire de l'humanitaire dans un pré-séminaire. Et finalement, après être revenu, je me suis posé beaucoup de questions, mais cet appel de retourner en Asie restait toujours, était toujours permanent. Et cet appel se couplait en plus avec un appel ou un questionnement sur la prêtrise. Et du coup, on m'a informé que les missions étrangères de Paris avaient leur propre foyer pour discerner, pour faire une propédeutique. Et j'ai décidé de rejoindre donc les missions étrangères de Paris, les MEP, pour faire cette année de discernement, et à la fois sur la prêtrise et à la fois sur la vocation de missionnaire.
Alors je sais que durant ces années de formation, tu ne sais pas, jusqu'au jour de ton envoi, dans quel pays tu seras envoyé. Est-ce que cela t'inquiète ?
Alors effectivement, si je décide d'entrer comme séminariste pour les missions étrangères de Paris, je ne connaîtrai pas mon pays de mission avant mon ordination diaconale. Donc c'est un an avant l'ordination de prêtre. Et c'est un point qui est quand même assez... qui peut être angoissant, dans la mesure où les MEP couvrent une très grosse partie de l'Asie, qui va de la Chine à l'Inde en passant par l'Indonésie, et qui couvre aussi l'océan Indien, donc Madagascar et l'île Maurice en font partie. Et le profil des missionnaires est très différent, par exemple à Madagascar, ou à Taïwan, ou à Hong Kong. Tous les séminaristes ont des destinations de prédilection, et les enjeux sont énormes, parce que c'est l'enjeu de notre vie. C'est notre vie qui est dans la balance, et du coup ça peut avoir... vaut mieux en fait ne pas y penser, et faire confiance totalement à Dieu, plutôt que que d'angoisser et de gâcher cette année de formation.
Alors Vianney, tu arrives en tant que Français dans un pays étranger. Comment fais-tu pour t'intégrer au sein de cette culture ?
Alors ça, c'est vraiment une bonne question, parce que c'est le défi finalement de la vie du missionnaire. C'est faire comprendre que le message qu'on apporte est universel, n'est pas seulement destiné aux Européens. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'un missionnaire qui arrive dans son pays de mission à 35 ans, 40 ans, et donc qui est français, et qui va passer 40 nouvelles années dans son pays de mission, et ben même à 75 ans, 80 ans, il restera français. Même si un jour il aura passé plus d'années dans son pays de mission qu'en France, et ben notre enfance nous marque trop, notre culture reste vraiment ancrée, et finalement tous les missionnaires le disent, on reste un étranger, on reste un français dans un pays de mission en Asie. Et donc toute la problématique de la mission tourne autour de ça, tourne sur l'inculturation. Comment montrer que le message de l'évangile est adapté à toutes les cultures, à toutes les nations, et pas seulement à l'Europe et à l'Occident.
Donc, après ce survol de l'Orient, cap vers l'Ouest, avec notre spécialiste Benoît alias Bébé. Benoît, le voyage dans les religions, est-ce un thème important ?
Et pas qu'un peu. Par exemple, dans la Bible, dès le début, on connaît l'histoire d'Abraham, auquel Dieu demande de partir un peu à l'aventure. et vers un pays qu'il lui indiquera. Donc c'est le premier, je sais pas comment dire, le premier grand pèlerin. Et puis plus près de nous, un peu dans l'évangile, c'est qui raconte l'histoire de Jésus. On ne connaît que 3 ans de sa vie, mais c'est 3 ans pendant lesquels il tient pas en place. Il est sans arrêt sur les routes. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis même après, dans la tradition chrétienne, il y a eu les pèlerinages au Moyen-Âge qui redeviennent à la mode. Mais c'est pas propre aux chrétiens. Par exemple, pour les musulmans, le Hajj, ça fait passer un des 5 piliers de l'islam, d'aller au moins une fois dans sa vie en pèlerinage à la Mecque. Les juifs, avant la destruction du temple en 70, ils allaient généralement une fois par an pour la Pâque en pèlerinage à Jérusalem. Et puis, le plus grand rassemblement humain au monde, il se passe en Inde, c'est un pèlerinage hindou.
Donc, Benoît, tu nous parles de voyages à caractère religieux. Justement, à propos, Virgile, pourrais-tu nous parler des JMJ ? Qu'est-ce que les JMJ ?
Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont un événement organisé par l'Église catholique rassemblant des jeunes du monde entier.
Et comment se déroulent ces JMJ ?
Il y a différentes messes. Il y a un chemin de croix. Les jeunes peuvent découvrir la ville. Il y a des concerts, des visites au musée, des expositions et plein d'autres choses encore. Il y a aussi des enseignements faits par des évêques. Ensuite, tous les jeunes se retrouvent sur le lieu du rassemblement où le pape célèbre une veillée de prière. Et ensuite, les jeunes passent la nuit à la belle étoile. Ensuite, le pape célèbre la messe finale et annonce le lieu des prochaines JMJ.
Comment est-ce que toi, tu as vécu ces JMJ à Madrid ?
Durant ces JMJ, j'ai découvert les villes d'Avila et Madrid. J'ai aussi découvert des jeunes du monde entier. Malgré la barrière de la langue, j'ai pu avoir des contacts avec eux. On s'est aussi échangé un objet. J'ai échangé le drapeau de la Lorraine contre un drapeau belge. Pour moi, les JMJ ont été un défi. Je suis parti avec le groupe de Sarrebourg et le diocèse de Metz. Pendant 15 jours, et pour la première fois, j'ai fait un voyage hors de la France et sans ma famille. Ces JMJ ont été pour moi un super séjour. J'ai vécu de grands moments de prière, de rencontres avec des jeunes du monde entier. J'ai ressenti un grand changement dans ma foi. J'ai ressenti que le Seigneur m'appelle à le servir et à peut-être être prêtre un jour. Chers jeunes, je vous recommande d'aller au JMJ. C'est une expérience inoubliable. Les prochaines JMJ auront lieu à Cracovie, en Pologne, en 2016.
Merci Virgile.
Benoît, toi qui as réponse à tout, éclaire ma lanterne. Quelle est la différence entre le voyage et le pèlerinage ?
Sacrée question. En fait, quand tu pars en voyage, ce qui t'importe surtout, c'est la destination. Le voyage t'intéresse assez peu. Les heures d'avion, c'est pas très sexy. Par contre, pour le pèlerinage, c'est un peu l'inverse. C'est pas tant la destination que le temps que tu mets à parcourir. Par exemple, c'est très à la mode en ce moment les chemins de Saint-Jacques. Il y a des chrétiens ou des non-croyants qui le font. Et ils disent que ce qui est important, c'est pas tant d'arriver à Saint-Jacques que tout le temps où tu as avancé dans ta tête et avec tes pieds.
Est-ce le JMJ est un voyage ou un pèlerinage ?
Ah, c'est vrai que les JMJ, ce qui est important, c'est surtout d'être sur place. Mais quand même, je pense que c'est vraiment un pèlerinage parce que, surtout depuis quelques années, tu vas à la rencontre d'une culture, tu vas dans une grande ville du monde. Tu passes généralement une semaine dans une région du pays qui accueille pour rencontrer les habitants, découvrir la culture, etc. Donc c'est pas mal. Je pense que c'est plutôt un pèlerinage. D'ailleurs, il y a des pèlerinages un peu 2.0, si je puis dire, où tu as de nouvelles manières d'aller en pèlerinage. Dernièrement, il y a eu plusieurs films. Il y a une famille qui est partie à pied, hein, une famille française qui est partie à pied à Rome avec un âne, où c'était les mêmes qui étaient partis à pied à Jérusalem comme pour un voyage de noces, mais plus jeunes que nous, il y a trois étudiants en école de commerce qui ont fait un tour du monde pour rencontrer des personnes qui étaient exclues, ou alors encore il y a 5 jeunes de différentes religions et puis des jeunes non-croyants qui ont fait l'Interface Tour, qui ont rencontré voilà, des personnes des quatre coins du monde.
Merci, merci Benoît pour ton éclairage. Avant de retrouver une interview exclusive de moi et de Blaise, je vous propose une nouvelle pause musicale. Retour sur Radio Fadjet pour la dernière partie de notre émission.
Et toi, Nivan, tu viens de Madagascar, si je ne me trompe. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire 11 000 km pour venir en France ?
En fait, j'ai quitté le cocon familial pour aller à l'étranger. Tout d'abord pour poursuivre mes études et aussi pour être un petit peu plus libre, plus autonome vis-à-vis de mes parents. Je voulais aussi découvrir une autre culture que la mienne. Et c'est en arrivant à La Réunion que je me suis posé la question de la vocation et senti un appel à aller au large, toujours plus loin, et à faire confiance à Dieu.
Pour quelle raison es-tu venu en France ?
Je reformulerai ta question, Laurent. Pourquoi suis-je resté en France ? Personnellement, j'ai senti un désir, un appel à discerner concrètement, à discerner ma vocation en France, puisqu'on assiste actuellement à un manque de prêtres. En effet, j'ai reçu la foi, je connais le Christ grâce à des missionnaires français et je me sens redevable vis-à-vis d'eux c'est naturel pour moi, si un jour je suis appelé à être prêtre, de rester en France pour participer à la construction de l'Église du Christ.
Quelles sont les difficultés et les joies à vivre en France ?
Bah, les difficultés, c'est tout d'abord la solitude, l'éloignement vis-à-vis de mes proches, l'intégration qui n'est pas toujours évidente face à une culture différente de la mienne, une culture qui fait beaucoup de place, qui laisse place à l'individualisme, mais cela ne m'a pas empêché de nouer des amitiés sincères. Et je voulais terminer sur une note plus positive. C'est vraiment ça qui m'a motivé à rester en France aussi. C'est la joie de la rencontre. J'ai pu rencontrer des personnes, des amis qui sont devenus comme une seconde famille. Et aussi la possibilité de faire du ski. Voilà. Mais assez parlé de moi, Laurent. Je vais laisser la parole à Blaise, qui peut aussi nous apporter un éclairage puisqu'il vient du Togo.
Quelles sont les difficultés et les joies de vivre à l'étranger, Blaise ?
Oui, avant ça, j'ai effectué mes voyages dans le cadre de formation et les études. J'ai quitté le Togo en juin 2007 pour l'Ouganda et Kenya comme mes pays d'accueil. Après 6 ans de mon parcours, les supérieurs ont décidé que je vienne continuer et poursuivre mes études ici en France. Bon, dans mon point de vue, après quelques années d'expérience, les choses les plus difficiles et les précautions lorsque l'on part vivre à l'étranger. Tout d'abord, il faut être un minimum habile pour raconter le monde et entamer une libre conversation. Il y a également une difficulté de lier une amitié dès le premier temps. Des fois, même si vous êtes bilingue, il restera toujours une barrière à la communication. Rien que le fait d'avoir un accent fait que vous serez toujours à l'étranger. Et autre problème lié à la langue, c'est à force de ne pas pratiquer votre propre langue et vous finissez par perdre un peu le vocabulaire. Mais au niveau de la sécurité, nous constatons aujourd'hui que le crime et la violence restent présents partout dans le monde. Et la seule solution d'éviter, c'est de limiter vos sorties inutiles, surtout dans les nuits. Et en ce qui concerne la liberté d'expression, parfois à l'étranger, il vaut mieux se taire lorsque l'on parle de la religion, la politique dans certaines régions de ces pays d'Afrique. Des choses que tu n'as rien à voir ou concerner.
Quels sont les avantages ?
Ah oui, bon, il est vrai que partir à l'étranger, c'est un atout de multiples avantages, dont le principal est de se construire un avenir meilleur ou découvrir quelque chose de nouveauté. Dans l'ensemble, j'ai appris pas mal de choses au Kenya, en Ouganda et comme en France, et cela m'a beaucoup aidé dans plusieurs domaines. Et aussi, il permet d'élargir ma capacité de communication, surtout en anglais. Découvrir une autre culture permet de s'adapter à une mode de vie différente et à une autre manière de penser. On peut aussi acquérir de nouvelles références qui nous permettront de comparer et d'analyser ce qui existe entre notre pays d'accueil et notre pays d'origine, enrichir également en développant une qualité humaine, notamment et la tolérance, l'ouverture aux autres et au monde.
Voilà, c'est déjà fini. J'espère que vous avez apprécié votre voyage à bord d'Air Propé. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission, une émission mystère. J'espère vous retrouver toujours plus nombreux sur Radio Falgette.